Et donc, avant de vous parler de la jalousie, ce soir, je me permets de vous lire un psaume, le psaume 138. Et peut-être que, à la fin de ce que j'aurai dit, vous comprendrez mieux pourquoi j'ai choisi ce psaume. Et donc, le voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un seul mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et je me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. J'ai choisi ce psaume parce que, en vous parlant de la jalousie ce soir, un des sept péchés capitaux, je vais aborder un péché qui détruit la personne qui le pratique. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais le péché de jalousie est peut-être, après l'orgueil, le plus grave. Le plus grave au sens où c'est celui qui fait le plus de dégâts. Et on a beau essayer de dire qu'on n'est pas jaloux, en fait, quand on essaie d'être un peu attentif à sa propre vie, et surtout quand on essaie d'être sincère avec soi-même, on voit bien qu'il y a des moments où la jalousie est présente. Alors, je voulais d'abord faire un petit parcours biblique, rassurez-vous, ce sera bref, car ce péché apparaît dès l'origine. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un des plus graves, parce que il marque une sorte d'attitude de l'homme devant Dieu. Devant Dieu. Je résume rapidement le récit de la Genèse. Adam et Ève. Que dit le serpent pour séduire Ève? Que lui dit-il? Il lui dit, « Si vous mangez du fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et là, tout à coup, Dieu apparaît comme celui qui veut garder ses privilèges, comme celui qui veut nous maintenir inférieurs à lui. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. » Et à travers cela, nous comprenons que naît dans le cœur de l'homme cette défiance, j'en ai déjà parlé, mais cette défiance qui est teintée de jalousie. Pourquoi Dieu veut-il garder son pouvoir? Alors, entre nous soit dit, je précise quand même les choses, hein. Satan ment, évidemment. Ce qu'il dit est faux. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez un passage des Évangiles où on reproche à Jésus de se considérer comme fils de Dieu, il dit à ses interlocuteurs, mais l'Écriture ne dit-elle pas, vous serez comme des dieux? Donc, le projet de Dieu, ce n'est pas que nous soyons ses esclaves. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons comme lui, comme lui. En fait, j'ai pas eu souvent l'occasion de le dire peut-être pendant ces entretiens, mais j'en profite pour le dire maintenant. La grâce qui nous est faite, à nous, être humains, c'est d'être enfants de Dieu. Alors, nous sommes enfants de Dieu non pas comme le Christ est fils de Dieu. Le Christ est le Fils unique. Il n'y en a pas deux comme lui, hein. C'est le Fils unique. Engendré, non pas créé, de même consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Donc, Jésus est l'unique. Mais nous sommes des fils ou des filles adoptifs, comme le dit très justement saint Paul, en particulier dans l'Épître aux Romains. Nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils, des filles adoptifs. Autrement dit, nous sommes vraiment enfants de Dieu parce que nous avons été adoptés par Dieu. Vous voyez, on est loin de cette volonté de Dieu qui serait de nous maintenir en servitude, alors qu'au contraire, le désir de Dieu, c'est de faire de nous ses égaux. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, nous dira saint Jean. Et comprenons bien que c'est là notre grande dignité. Et c'est même, j'allais dire, l'enjeu du carême, redécouvrir, nous réapproprier cette dignité d'enfant de Dieu. C'est extraordinaire quand on y pense quand même. Même les anges ne sont pas enfants de Dieu. Même les anges. Et j'en viens au deuxième point, évidemment, qui va se révolter contre l'homme? Satan. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Et d'où vient cette jalousie? Parce que Dieu a fait de l'homme son enfant bien-aimé, ce que n'est pas un ange. Et donc la révolte de Satan, le refus de Satan, est en fait l'expression de sa jalousie par rapport à l'homme. Je vais vous dire quelque chose de très simple, mais écoutez bien quand même. Dans l'ordre de la création, les anges nous sont supérieurs. Parce que nous sommes des créatures à la fois spirituelle et matérielle. Vous voyez, on est entre les deux. Nous, on est à cheval entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, les anges, dans l'ordre de la création, nous sont supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement spirituels. Mais, dans l'ordre de la rédemption, dans l'ordre du salut que le Christ est venu nous apporter, nous leur sommes supérieurs, puisque Jésus a donné sa vie pour les hommes. Et qu'il a fait de nous ses frères et sœurs bien-aimés, les enfants de Dieu bien-aimés. Et donc le péché de l'ange, le péché de Satan, c'est un péché de jalousie. C'est intéressant de voir que ça se trouve aussi là. Voyez, jaloux de l'homme. Et d'ailleurs, vous savez bien ce que fait Satan. Le diable, que fait-il? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À nous faire des crocs en jambes en permanence, pour nous laisser penser qu'on n'est pas capable de marcher, qu'on n'est pas capable de tenir debout. Et donc, il s'arrange pour nous faire tomber, pour nous faire des crocs en jambes, pour dire « t'es nul, tu vaux rien, patati, patata, t'y arriveras jamais ». Mais ça, c'est la jalousie de Satan qui l'inspire, parce qu'il ne supporte pas que nous puissions réussir, évidemment. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je vous en supplie, ne faites pas plaisir à Satan. Ne lui faites pas plaisir en péchant, sûrement. Mais ne lui faites pas plaisir après en pensant du mal de vous. Parce que là, il jubile. Là, il jubile, puisque enfin, il voit que les hommes se considèrent comme des nuls, comme des moins que rien. Alors que Dieu nous considère comme ses enfants bien-aimés. Et Dieu ne change pas d'avis. Il nous considère toujours comme ses enfants bien-aimés. Donc ne donnons jamais à Satan le plaisir de notre découragement. On pêche, d'accord, très bien. Enfin, pas très bien, mais on pêche. Mais au moins, ne nous décourageons pas. Ou en tout cas, ne nourrissons pas des sentiments négatifs à notre égard. Ça serait faire trop plaisir à Satan. Et c'est pas ce que Dieu veut. Ça vient très vite, je vous l'ai dit, dans la Bible. Alors Satan, j'aurais pu en parler en premier, mais j'ai voulu parler d'abord d'Adam et Ève. Satan, les deux fils, Abel et Caïn. Il y en a un qui s'occupe des terres, l'autre qui chasse. Et que va faire Dieu? Il va accueillir le sacrifice que lui offre Abel et il va fermer les yeux sur celui que lui offre Caïn. Que se passe-t-il dans la tête de Caïn? Pourquoi mon frère est-il agréé? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à mon frère et pas à moi? Et que va-t-il faire? Eh bien, il va tuer son frère. Comme ça, ça sera plus simple. Il sera tout seul. Et en fait, c'est quand même très impressionnant qu'on nous raconte ça au tout début de la Genèse. C'est quand même très impressionnant. La jalousie de Caïn par rapport à Abel. Qui le conduit à tuer son frère? Alors aussitôt, évidemment, vient dans notre esprit une question là, lancinante. Mais c'est la faute de Dieu, puisqu'il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Ah bon? Pourquoi? Dieu fait ce qu'il veut, non? Ce n'est pas parce que Dieu est bon et qu'il fait ce qu'il veut que l'homme doit être méchant. Voilà, mais ça va revenir, vous allez voir, ça va revenir. J'aurais pu multiplier beaucoup d'exemples, parce que dans la Bible, et dans l'Ancien Testament en particulier, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de jalousie. Alors, j'en ai pris un seul, c'est le roi Saül et David. Le roi Saül, c'est le premier roi en Israël, le premier, désigné par Dieu. Il est beau, paraît-il, il dépasse les gens d'une tête, donc il a beaucoup de prestige, voilà. Et puis, il y a un petit jeune là qui grandit, et qui est pas mal du tout, qui s'appelle David. Et David est un très bon guerrier. Et dans les déboires que connaît le royaume, Saül trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un comme lui. Donc il lui confie son armée. Très bien. Et donc David va gagner contre les Philistins. Enfin, je fais vite, mais il va gagner contre les Philistins. Donc il revient de ce combat, tout est auréolé de gloire, et les femmes sur le chemin chantent « Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000 !» Ben voilà, c'est fichu. À partir de ce moment-là, c'est fichu. Pourquoi? Parce que David va devenir la bête noire de Saül. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais le fait que des gens aient pu dire que David était meilleur que le roi, ils voient en lui, en fait, un possible concurrent qui pourrait chercher à l'éliminer. Et alors, Saül va être absolument complètement malade par rapport à ça. Alors, je ne vais pas tout raconter là non plus, mais il y a un passage qui est très célèbre. Nous sommes dans les gorges d'En-Gedi. En-Gedi, c'est en bordure de la mer morte. Voilà, c'est très beau comme endroit parce que la mer morte, comme vous le savez, est morte. Il n'y a rien. Et tandis que les sources d'En-Gedi, c'est de l'eau bonne, qui n'a pas trop de sel. Donc il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des animaux qui viennent, des gazelles qui viennent boire à la source. C'est un truc absolument magnifique. C'est juste à côté, ça, à 200 mètres de la mer morte, mais c'est extraordinaire, c'est un vrai petit paradis. Donc, dans ce coin-là, il y a des grottes, et David, qui est poursuivi par Saül, avec 3 000 hommes, Il est poursuivi et donc il a évidemment il a peur. Hein. Enfin il a peur. Non, c'est pas qu'il a peur, mais après il se dit oh là là, ça chauffe. Et vous savez que Saül a envie d'aller aux toilettes. Enfin vous le savez pas, mais je vous le dis. Il a envie d'aller aux toilettes et pas la petite toilette, c'est la grande. Et alors du coup il s'installe, il entre dans une grotte et là il est à son aise, il fait ce qu'il a à faire. Bon. Et David, qui est entouré de ses généraux, ils lui disent « Mais attends, regarde, tu peux le tuer, là, il est à portée de main, tu peux le tuer, vas-y !» Et David s'approche, coupe un petit morceau de son manteau et repart. Et puis, une fois que Saül est sorti de la grotte, il s'est rendu compte de rien, évidemment, et qu'il est passé sur l'autre rive, David l'appelle et dit « Ô grand roi, je t'avais entre mes mains !» À l'heure, à cette heure, et je ne t'ai pas tué parce que je te respecte, parce que tu es loin du Seigneur, pas loin, loin celui qui a reçu l'onction, voilà, et donc je te respecte. Et grâce à des choses comme celle-là, il faudra du temps quand même, hein, finalement, Saül acceptera de reconnaître les mérites de David et de comprendre que c'est lui qui lui succédera et non pas son fils Jonathan. Vous voyez, c'est des choses quand même qui sont terribles. La jalousie qui va conduire à chercher la mort de la personne que je jalouse. Deux exemples dans le Nouveau Testament. Alors, plus exactement dans l'Évangile. Vous savez, il y a la parabole des ouvriers de la 11e heure. Donc, il y a des gens qui ont travaillé toute la journée à la vigne. Puis le maître, il s'est rendu compte qu'il y avait encore des gens dans l'après-midi qui étaient sur la place du village et qui n'avaient pas été embauchés. Et donc, il les embauche. Et les gars, c'est super, ils travaillent une heure. Peinard. Mais bon, c'est le maître qui les a embauchés. Arrive le moment de la paye. Et là, évidemment, ceux qui travaillent depuis le matin se disent « Bon, on va toucher beaucoup plus. » Et en fait, le maître donne la même somme à tous les ouvriers, à ceux qui sont arrivés les derniers, comme à ceux qui sont arrivés les premiers. Jalousie ! Comment ça ? Mais c'est pas possible, on a travaillé plus que lui, et lui, il a rien fait, patati, patata, patati, patata. Et Jésus met dans la bouche du maître du domaine cette parole, « Vas-tu être méchant parce que moi je suis bon ? Vas-tu être méchant parce que moi je suis bon ?» Dans le même registre, il y a la parabole des talents. Vous savez, un maître qui fait ses affaires et qui donne à un de ses serviteurs 3 talents, puis à l'autre 5 talents, puis à l'autre 2, puis à l'autre 1 seul. Et là, aussitôt, qu'est-ce qui se met en route dans notre tête ? Mais c'est quoi cette injustice ? Pourquoi ? Pourquoi il ne donne pas la même chose à tout le monde ? Non mais, quand même, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut, non pas parce qu'il a l'intention de blesser les gens, hein. Il donne à chacun selon ses capacités. Voilà. Donc ce n'est pas un don qui est une comparaison entre les différents ouvriers, c'est il donne à chacun selon ses capacités. Autrement dit, non seulement ce don n'est pas une offense, mais il exprime un grand respect de la part du maître. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Évidemment, celui qui en a 5, il en reçoit 5. Celui qui en a 3, il en gagne 3. Et celui qui en a 1, il l'a enterré dans la terre. Ça ne rapporte pas grand-chose. Car jusqu'à présent, vous savez, pour mettre des pièces dans la terre, ça ne pousse pas. Hein. Alors c'est intéressant d'ailleurs d'essayer de comprendre cette parabole. Parce qu'on pourrait facilement l'imaginer à partir de cette question matérielle. 5, 3, 1. En fait, ce n'est pas ça qui est important. Celui qui a 5 en ramène 5 de plus. Celui qui en a 3 en ramène 3 de plus. Celui qui en a 1 aurait pu en ramener 1 de plus. Et il n'y aurait même pas de parabole. Sauf que il n'a pas voulu le faire. Il a enterré la pièce et il lui rend simplement la pièce. Alors là, je vais vous donner une clé pour comprendre cette parabole. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendue, vous avez bien fait de venir ce soir. En fait, ce n'est pas une question de nombre de dons reçus. Ça, c'est juste pour faire une parabole. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous répondions à l'amour par l'amour. Vous savez, il y a une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est très belle et qui dit « L'amour ne se paie que par l'amour ». Et donc la parabole des talents ne veut pas tant insister sur la différence des trois ouvriers qui sont là. Elle veut surtout dire que celui qui a cinq, il a répondu parfaitement à l'amour qui lui était donné. Et il rend ce qu'il a reçu. Enfin, il rend le double de ce qu'il a reçu. Celui qui en avait trois, il a parfaitement répondu à l'amour qu'il a reçu. Et il en ramène trois de plus. Celui qui n'a rien, en fait, il n'a pas cru à l'amour. Et d'ailleurs, dans la parabole, c'est explicité puisque il est dit « Je sais que tu es un maître exigeant, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, que tu récoltes, etc. » Donc on voit bien que l'attitude de ce serviteur, elle n'est pas très très positive à l'égard du maître. Hein. Voilà, donc la parabole des talents, une des manières de la comprendre, c'est de se rappeler que nous devons répondre à l'amour de Dieu par l'amour que nous pouvons lui donner. Voilà. Et il ne s'agit pas de faire de comparaison. Pas de comparaison. Vous savez, la jalousie, c'est des comparaisons, hein. Vous êtes au courant, hein. Voilà. Pas de comparaison. Pourquoi? Mais parce que, en fait, ce que je donne, c'est ce qui plaît à Dieu à partir du moment où c'est donné de tout mon cœur, évidemment. Je reviens un peu plus à la jalousie. En fait, c'est un péché grave, d'abord, parce que c'est une manière de se comparer aux autres par rapport à ce qu'ils ont. Souvent, la jalousie, elle porte sur des biens matériels. Plus grosse voiture, plus grosse maison, voilà, puis je peux insister, puis d'autres, voilà. Un salaire plus grand, tant de choses, voilà. On pourrait multiplier les exemples. Et donc, la jalousie, elle peut se diriger vers ce que l'autre a et que je n'ai pas. Et donc, eh bien, au lieu de me contenter de ce que j'ai, au lieu de me réjouir de ce que j'ai, je vais regarder ce que l'autre a en nourrissant un sentiment de tristesse. Parce que c'est ça qui marque la jalousie. La jalousie engendre une grande tristesse. Parce que je regarde l'autre et qu'il a plus, et parce qu'après je me regarde moi et que j'ai moins. Et donc, ce que l'autre a en plus, il ne va pas me le donner, évidemment. Et ce que j'ai en moins, ben, je suis bien obligé d'accepter. Mais donc, cette tristesse qui va naître de cette attitude, de ce sentiment de jalousie, est vraiment dramatique. Excusez-moi, il y a un téléphone qui a sonné. Enfin, c'est le mien. Oh, ça marche, ça va. Il va y avoir une coupure bizarre dans le cheminement de cet exposé. Donc, il y a eu un coup de fil, c'est tout. La jalousie porte sur ce que l'autre est. Pas simplement sur ce qu'il a, mais sur ce qu'il est. C'est-à-dire les qualités qu'il a, que je n'ai pas, l'intelligence qu'il peut avoir, que je ne crois pas avoir, les dons qu'il a, que je n'ai pas, qu'elle a, que je n'ai pas. Et donc ça porte non pas sur un avoir, mais sur l'être. Et du coup, j'allais dire, c'est pire encore, parce que l'avoir, c'est un peu extérieur. Tandis que l'être, par la jalousie, je m'attaque à ce qui fait la caractéristique, l'unité de la personne que je jalouse. Et là, évidemment, j'entre dans un très grand péché, puisque ce ne sont plus simplement des questions de choses possédées, d'avoir, de choses matérielles, mais ça touche à la particularité que l'autre porte. Or, ce que l'autre est, il ne l'est pas par ses propres forces, il l'est par la grâce de Dieu. Donc, si j'en viens à lutter ou à jalouser quelqu'un pour ce qu'il est, voyez bien tout de suite ce que ça entraîne. Je vais en vouloir à Dieu parce qu'il a donné à l'autre plus qu'à moi, parce qu'il a comblé l'autre plus que moi-même. Et là, on entre dans un processus, évidemment, qui commence à devenir particulièrement grave. Je garde le dernier point pour la fin. Je pourrais m'étonner que je puisse nourrir de tels sentiments, de telles attitudes à l'égard des autres, à l'égard de quelqu'un. En fait, souvent, si j'accepte de faire l'analyse de ce qui me conduit à être jaloux, à être jalouse, c'est quelque chose de terrible. C'est mon manque d'amour, le fait que je ne me sente pas aimé comme les autres, le fait que je manque de cet amour, ou en tout cas que j'en ai manqué, et que c'est une souffrance terrible pour moi. En fait, la jalousie, elle est non seulement un péché, évidemment, on ne va pas le nier, mais elle est aussi en fait une blessure. La blessure de celui ou de celle qui, manquant d'amour, le voit chez les autres et n'en bénéficie pas. Et ça, c'est quelque chose qui est crucifiant, évidemment. Et ça peut venir de très loin, évidemment. Ça peut venir de l'enfance, où par exemple, mon frère ou ma sœur était préféré. Et mes parents, ma maman, mon papa, mes parents me faisaient clairement comprendre que j'étais moins important que l'autre. Ça peut naître, par exemple, d'une situation parfois très douloureuse. Un frère, une sœur qui est malade, et donc les parents vont s'en occuper davantage, parce qu'il est malade. Et donc, c'est quelque part, c'est dans la logique des choses. Mais du coup, moi qui ne suis pas malade, je vais me sentir moins aimé que mon frère et ma sœur qui est malade. Et donc, je vais avoir un déficit d'amour. Et il y a des gens parfois qui me disent, vous savez, père, je n'ai pas été aimé dans ma vie. Alors, quand des gens me disent ça, je leur dis sûrement que vous exagérez un peu. Mais j'accepte d'écouter cela, parce que je comprends que c'est une telle blessure pour les personnes qu'elles ont besoin de l'exprimer. Je ris parce que je vais dire quelque chose, ma maman ne peut pas l'entendre puisqu'elle est partie au ciel, et ma tante aussi puisqu'elle est partie au ciel. Donc au ciel, elles vont s'amuser. Ma maman, qui était l'aînée de sa sœur de 19 mois, c'est pas énorme, hein, 19 mois, a toujours remarqué que ma grand-mère, leur mère, avait une petite préférence pour la petite sœur. Voilà. Et donc, maman, qui était l'aînée, s'en rendait compte un peu. Et puis, elle me racontait parfois que quand elles étaient toutes les deux dans la chambre, parce qu'elles dormaient ensemble, évidemment, quand elles étaient toutes petites, elles dormaient ensemble. Alors, ma grand-mère venait les embrasser avant de dormir. Et donc, ma tante, la sœur de ma maman, la plus jeune, se dressait sur le lit, elle disait « Dis-moi que tu m'aimes plus que Cécile !» Et donc, ma tante avait besoin que ma grand-mère lui dise qu'elle l'aimait plus que ma maman. Oui, Cécile, c'est ma maman, évidemment. Et maman en parlait avec beaucoup de recul et beaucoup de compassion par rapport à sa sœur. Parce qu'elle avait perçu une sorte de, voilà, une peur de sa sœur de ne pas être aimée. Et donc, non seulement ma grand-mère était tenue de le montrer, mais il fallait qu'elle le dise. Voilà. Mais oui, je t'aime plus qu'elle. Oui. Oui, je t'aime plus qu'elle. Puis ma grand-mère faisait un clin d'œil à ma mère, mais bon, voilà. C'est terrible, ça, quand même, hein. C'est terrible. C'est-à-dire que, on voit bien que la jalousie, elle peut naître de grandes blessures qu'on a pu connaître. Ou de telles situations effectivement difficiles. Je prends un exemple qui, évidemment, est très, très, très douloureux aussi. Un couple qui a des amis mariés, qui en sont à leur troisième enfant, et eux n'arrivent pas à avoir d'enfants. Comment vivre cela? Comment vivre cela? Vous voyez, je dis ça pour rappeler que la jalousie, même si c'est grave, elle est souvent explicable par le fait que des gens vivent une grande souffrance. Et donc, il faut essayer d'apaiser cette souffrance. Le remède, en quoi consiste-t-il? Eh bien, le remède consiste à se rappeler, et je le dis, mais on n'en a jamais conscience, que chacun de nous est unique. Il n'y en a pas deux comme nous sur la Terre, vous vous rendez compte? Pas deux, pas deux. Nous sommes uniques. Dieu fait du travail d'orfèvre quand il nous façonne dans le sein de notre mère. Donc, nous sommes uniques. Les chats se multiplient, c'est tous les mêmes. Enfin, grosso modo. Un être humain est unique, il n'y en a pas deux comme lui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons évidemment nous approprier. Parce que ça veut dire que nous sommes aimés de manière unique. Dieu aime chacun de manière unique. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Évidemment que c'est possible. Dieu est Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu. Et par conséquent, c'est possible pour lui d'aimer chacun de nous de manière unique. Il nous connaît par notre nom. Voilà. Chacun de nous compte pour Dieu. Chacun de nous est précieux pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut souvent nous répéter, souvent nous remettre devant les yeux. Bien sûr, il y a des gens différents de nous, évidemment, qui ont plus de choses que nous, d'accord, qui ont des talents autres que les nôtres, oui, d'accord, qui ont des qualités autres, oui, d'accord, mais je suis unique. Et c'est ça qui fait ma valeur, et c'est ça qui fait ma beauté. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai lu le psaume 138 ? C'est toi qui m'as fasciné, façonné dans le sein de ma mère, au creux de mes reins, c'est toi qui m'as façonné. Et puis surtout cette parole qui fait tellement de bien. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Vous êtes d'accord pour la répéter avec moi ? Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Vous y croyez ? Ah, très bien. Non, mais ce psaume est absolument extraordinaire. Quand des gens sont en pleine dépression nerveuse, je leur conseille de lire le psaume 138. Voilà, parce que vous savez que la dépression constitue une maladie par laquelle on se déprécie beaucoup et par laquelle on a beaucoup de mal à percevoir sa propre valeur. Voilà. Eh bien, en fait, ce psaume me dit que je suis un type génial. Vraiment. Mais au-delà même de ce que je fais, pas même au-delà, c'est parce que je suis aimé de Dieu, tout simplement. Voilà, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, tout ça. L'autre chose, c'est que la jalousie n'apporte rien. C'est pas parce que je vais jalouser quelqu'un qui possède plus que moi que je vais bénéficier de ce qu'il possède. Voilà, il a une belle voiture, je vais le jalouser, ben je serai toujours avec mes deux chevaux. Voilà, ça changera rien. Autrement dit, la jalousie, c'est un faux calcul. On se tourne vers l'autre en voyant tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, mais ça changera strictement rien pour moi. Rien. Rien. Vous savez, c'est comme les milliardaires. On peut toujours y penser en étant furieux, mais ça changera rien pour nous, hein. Enfin, je veux dire, il va pas me donner un milliard, je sais pas qui, celui qui veut. Donc c'est un faux calcul. Et puis, il y a autre chose, c'est que, alors là, en préparant ce que je vous dis, j'ai découvert ça, et ça m'a beaucoup plu. Par exemple, il y a quelqu'un qui chante mieux que moi. Alors une femme, évidemment, hein. Une femme qui chante mieux que moi, comme Claire qui chante le samedi. Voilà. Elle chante mieux que moi. Si je la jalouse, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Rien. si je me réjouis de sa voix. Non seulement je ne vais pas me faire de mal, mais surtout, sa voix va devenir la mienne. C'est-à-dire que je m'approprie sa voix parce que je me réjouis, parce que je jubile en l'entendant chanter. Donc non seulement je ne perds rien, mais je gagne tout, en fait. Et ça, comprendre que en me réjouissant de ce que l'autre a ou de ce que l'autre est, et en fait, je m'enrichis. Curieusement, je m'enrichis. Alors que la jalousie souligne le fait que je n'ai pas ce que l'autre a, que je ne suis pas ce que l'autre est, la joie de voir l'autre tel qu'il est, ou avec ce qu'il a, me fait du bien, enrichit ma vie, me comble. Je prends un exemple qui est assez simple, c'est un exemple vécu. Vous savez que les prêtres sont célibataires. Donc, je n'ai pas d'enfant. Non, je vous le précise, mais voilà. Je n'ai pas d'enfant. On pourrait imaginer que de temps en temps, j'éprouve une certaine jalousie quand je vois des amis qui ont des enfants, des petits-enfants, ou quand des jeunes couples qui ont un petit enfant, je pourrais nourrir une sorte de jalousie. Eh bien, je vous le dis vraiment, mais je vous le dis avec beaucoup de liberté et de vérité, je n'éprouve aucun sentiment de jalousie. Mais j'éprouve une grande joie. Et ces enfants qui me sont présentés, alors généralement, vous savez, les gens, ils veulent vous les mettre dans les bras. Alors, attendez-moi, je ne sais pas comment on fait. J'ai pas l'habitude. Et donc, ce bonheur de voir ces enfants, mais ce bonheur, il est mien. C'est un cadeau que Dieu me fait. Vous voyez, je n'ai pas cet enfant, ce n'est pas le mien. Et pourtant, le fait que je l'accueille, que j'accueille ses parents qui ont cet enfant, c'est une source de joie. Donc, en fait, le remède à la jalousie est une source de grande, grande joie. C'est ça qui est très curieux, vous voyez. C'est que, en fait, on a l'impression que c'est la seule chose qu'on puisse faire quand on n'est pas content par rapport à quelqu'un. Eh bien, si, il faut être content. Voilà. Il y a des manières plus simples aussi d'éprouver cette joie. Quand vous voyez des gens qui vont être élus, vous leur dites « Bon courage, hein ? Bon courage ! Vous l'avez voulu, vous l'avez. » Voilà. Donc, pourquoi jalouser ? Pourquoi jalouser ça ? En fait, ça ne sert à rien et ça m'éloigne de cette joie que Dieu veut pour moi. Et puis, ça me fait envisager une relation à l'autre qui n'est pas ajustée. Je pense à quelqu'un que je connais bien, qui était dans la rue, qui ne l'est plus, qui a trouvé un travail, etc. Et donc on reste en contact. Je l'ai baptisé ici il y a 3 ans. Et bon, je suis ce que je suis, hein. Et parfois David me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à moi, je ne t'apporte rien. Et je lui réponds, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Moi, je suis très heureux de te connaître, je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi, j'ai beaucoup de joie à voir qui tu es, à voir comment tu as grandi dans la foi chrétienne depuis ton baptême. Moi, je suis très heureux, hein. Vous voyez, la question de se dire pourquoi tu t'intéresses à moi? Cette question, je n'ai pas à la poser. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Ben parce qu'il s'intéresse à moi, point final, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dise d'autre? Ça me suffit. C'est pas parce que je suis quelqu'un de formidable. Il s'intéresse à moi. Et même, vous savez bien que Dieu s'intéresse encore plus à ceux qui sont petits, qui sont pauvres, qui n'ont pas grand-chose. Donc, et voyez, voilà. Autant la jalousie abîme ce projet de Dieu, qui est que nous soyons en paix les uns avec les autres, que nous soyons heureux d'être les uns avec les autres, que nous nous réjouissions de ce que chacun est et apporte aux autres, eh bien la jalousie vient évidemment abîmer ce plan de Dieu, elle vient Elle vient abîmer nos cœurs, elle vient mettre dans notre cœur de la tristesse inutile qui ne nous apporte rien. Et pour terminer sur ce sujet, notre jalousie porte toujours, toujours sur le temps présent. Évidemment, c'est par rapport à ce que les gens sont maintenant que je peux éprouver de la jalousie vis-à-vis d'eux. Et donc c'est quelque chose qui est très limité en fait, hein. C'est dans le temps présent. Vous croyez qu'au ciel, on se jalousera ? Ben non, on sera heureux d'être ensemble. On découvrira encore plus, combien non seulement nous sommes uniques, mais aimés et capables de donner cet amour. Donc en fait, dans la réalité, la jalousie, c'est avoir une vue trop courte. C'est-à-dire que c'est s'arrêter sur une situation présente en oubliant que nous sommes faits les uns et les autres pour une plénitude dans laquelle nous serons tellement heureux de nous recevoir les uns les autres. Et donc, à travers cela, nous pouvons comprendre que nous avons à nous accueillir les uns les autres. Je termine par un point qui avait scandalisé quelqu'un un jour, mais je ne regrette pas de l'avoir dit quand même. Mère Teresa a écrit un jour, comme elle sait le faire, vous savez, elle écrit des textes comme ça qui sont toujours magnifiques, mais tout simple, voilà. La vie est un combat, mène-le. La vie est une joie, saisis-la, voilà. Et elle a écrit un jour un texte concernant ceux qui s'engageaient à aider les sœurs par un engagement de prière. Voilà. Donc c'était des hommes et des femmes qui prenaient cet engagement de prier pour l'œuvre apostolique des sœurs, vous savez, qui s'occupent des pauvres, qui s'occupent des gens de la rue. Et elle avait écrit quelque chose pour eux. Et elle avait écrit ceci. Alors, ça se décline sur plein de situations. J'en prends 3-4. Si tu es malade, pense à quelqu'un de plus malade que toi. Si tu es triste, pense à quelqu'un de plus triste que toi. Si tu es découragé, pense à quelqu'un de plus découragé que toi. Pourquoi on pense toujours à ceux qui ont plus et pas à ceux qui ont moins? C'est vrai quoi, mince. On n'est pas jaloux des pauvres, évidemment. Ça nous arrange. Enfin, c'est pas que ça nous arrange, mais on n'est pas comme eux. Mais vous voyez, l'intuition de Mère Teresa, pourquoi on regarde toujours au-dessus de nous en disant « Ah oh ben lui, il a plus, elle a plus », au lieu de se dire « Ah ben tiens, lui, il a moins, elle a moins ». Et en fait, vous savez, c'est un exercice spirituel qui est très utile. Voilà, lutter contre la jalousie, c'est aussi apprendre à regarder ceux qui ont moins que moi, ceux qui sont moins bien lotis que moi. Et du coup, voilà, ça aide peut-être. Parfois, ça m'est arrivé de le dire à quelqu'un qui me dit « Oh là là, la vie est dure ». J'ai dit « Vous avez un grand malheur, quelque chose ?» Non, non, non. Je dis « Vous avez un toit ?»« Ah ben oui. Vous avez de quoi vous habiller ?»« Ben oui, mon père. » »« Vous avez de quoi manger ?»« Ben oui, bien sûr, tous les jours. » »« Ben alors, qu'est-ce qui peut vous inquiéter ?» Qu'est-ce qui peut vous inquiéter? Voilà, vous voyez, cette espèce de manière de remettre les choses à leur juste place, d'avoir un regard bon sur la réalité des gens et surtout, aimer. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez, mais pardonnez-vous, vivez.